VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 janvier 2018. En direct de Washington, Eric Manelakidza et Michel Joseph. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les principaux titres.
Fort Niassimbe sort de son silence depuis le début de la crise au Togo.
Une trentaine de militaires nigériens sans nouvelles depuis le week-end de Noël.
Le colonel Auguste Denise Barry dans le viseur de la justice burkinabé.
Il est visé par une enquête pour tentative de déstabilisation du régime Kaboré. Il est soupçonné donc d'avoir formaté l'opération.
Il a été écroué hier à la maison d'arrêt et de correction des armées à Ouagadougou.
Aux inconditionnels de l'amour.
Nyangalement, c'est l'un des titres à succès du jeune rappeur français Alex Ducamé.
C'est pour vous, chers auditeurs, retroussez les manches si vous voulez suivre le rythme de Nyangalema.
Aux États-Unis, le bras de fer reprend entre Trump et les démocrates sur l'immigration et le budget.
Pour l'instant, le journal. Le président togolais Faure Gnassingbé a réitéré hier soir sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis septembre. C'est la première fois qu'il s'est adressé directement aux Togolais depuis le début de la crise. L'opposition exige des mesures d'apaisement, notamment la libération des manifestants toujours détenus et le retrait des forces et de sécurité dans le nord du pays avant le début de ce dialogue.
À l'origine, le Parlement a voulu soumettre au peuple un projet de révision de la Constitution qui prévoit une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, sans toutefois être rétroactive. 14 partis d'opposition mènent des contestations populaires quasi hebdomadaires pour demander la démission de Faure Gnassingbé. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont appelé le pouvoir et l'opposition au dialogue sous la médiation du président ghanéen Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé. Le Bénin et le Burkina Faso ont rejoint les deux pays dans cette mission de médiation.
L'ex-ministre de la Sécurité dans le gouvernement de la transition au Burkina Faso, le colonel Denis Auguste Barry, a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et écroué hier. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Des affrontements ont opposé hier les forces de sécurité de Guinée équatoriale à des mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. C'était peu après que Malabo ait affirmé avoir déjoué un coup d'État fin décembre. D'après la télévision d'État, un mercenaire a été abattu et les autres se sont dispersés dans les forêts frontalières de la Guinée équatoriale.
En Afrique, le taux de mortalité pendant les opérations chirurgicales est 2 fois plus élevé que dans le monde. Des chercheurs l'affirment dans une étude mettant au jour un fléau rarement discuté, comme le dit Bakassi Koura.
En théorie, la mortalité pourrait être moins élevée sur le continent qu'ailleurs. Les patients y sont en effet plus jeunes et y subissent des interventions moins lourdes. Mais d'après les auteurs de cette étude parue dans la revue médicale The Lancet, près d'un patient sur 5 en Afrique a des complications après une opération. Et là où existent des chiffres comparables, à savoir dans la chirurgie non urgente, la mortalité atteint 1% sur le continent contre 0,5% dans le monde. L'étude est décrite comme la plus vaste et la plus fouillée sur la chirurgie africaine. Elle a réuni plus de 30 chercheurs qui ont rassemblé des données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent. Ont été suivis les dossiers de 10 885 patients, dont un tiers ont subi une césarienne. Au total, 18,2% des patients opérés ont connu des complications et parmi eux, presque 1 sur 10 en est mort. Pourtant, 4 patients sur 5 étaient considérés à risque faible, sachant leur jeune âge et leur bonne santé.
Au moins 30 soldats nigérians sont toujours portés disparus après l'attaque d'une base militaire dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays, pendant le week-end de Noël. Abdourahman Dia a des détails.
L'attaque a aussi fait 5 morts parmi les soldats nigérians. Des combattants du groupe Boko Haram ont mené un raid sanglant sur la caserne du village de Kanoma, à la frontière avec le Niger, provoquant un long échange de tirs et même l'intervention des forces aériennes. Selon un officier, il n'est pas clair si ces soldats se sont enfuis pendant l'attaque ou s'ils ont été capturés par les combattants. Le chiffre a été confirmé par un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane dans cette guerre qui ravage la région du lac Tchad depuis 2009. Cette attaque survient alors que le groupe djihadiste, divisé en deux factions adverses, a redoublé de violence ces deux derniers mois et mené des raids, des tueries et des attentats de manière quasi quotidienne depuis le week-end de Noël. Aboubakar Shekau, qui dirige l'une des factions, est apparu mardi dans une vidéo dans laquelle il revendique les récentes attaques dans le nord-est nigérian.
40 migrants algériens ont été rapatriés hier d'Espagne où ils tentaient de s'installer illégalement. Récemment, l'un de leurs compatriotes est mort dans un centre de rétention du sud espagnol.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron veut un texte de loi pour lutter contre les fake news sur Internet en période électorale. En mai dernier, il avait pointé du doigt les médias publics russes RT et Sputnik. Les précisions de John Linden.
Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, a déclaré lors de ses vœux à la presse le chef de l'État français, qui s'en était notamment pris en mai dernier, peu après son élection, aux deux médias publics russes en français qu'il avait qualifié d'organes d'influence. M. Macron a également annoncé que les pouvoirs de l'autorité de régulation de l'audiovisuel allaient être accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Le président avait accusé en mai, lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Vladimir Poutine, la chaîne russe RT, qui a lancé sa chaîne de télévision en français en décembre, et l'agence de presse publique russe Sputnik, d'avoir diffusé des contre-vérités infamantes et de la propagande mensongère. Des milliers de documents internes de l'entourage du candidat Macron avaient également été publiés sur les réseaux sociaux, une opération dénoncée comme une tentative de déstabilisation démocratique, comme cela s'est déjà vu aux États-Unis pendant la dernière campagne présidentielle.
Et aux États-Unis, le bras de fer reprend entre la Maison-Blanche et les démocrates sur l'immigration et le budget. Mais l'urgence est de financer l'État fédéral pour éviter une paralysie des administrations après le 19 janvier. Les parlementaires ont déjà reporté trois fois depuis septembre la date butoir. Jean-Roger Bion.
Avant cette date, les parlementaires doivent adopter une gigantesque loi de centaines de milliards de dollars couvrant tout le gouvernement, de la défense à la santé, pour terminer fin septembre l'année budgétaire 2018. La majorité républicaine entend doper les dépenses militaires, mais la minorité démocrate n'a pas encore dit son dernier mot. Elle veut une augmentation équivalente des dépenses pour la défense et le reste des dépenses, des hausses conséquentes pour la lutte contre les opiacés et pour la santé, le renouvellement d'une assurance maladie pour les enfants et surtout la régularisation des centaines de milliers de clandestins arrivés enfants aux États-Unis. La principale pierre d'achoppement est que Donald Trump exige en retour le vote de crédit pour ériger le mur promis à la frontière avec le Mexique ainsi que d'autres mesures anti-immigration, dont la fin du regroupement familial et la suppression de la loterie annuelle des cartes vertes. Or, les démocrates ont longtemps répété qu'ils refuseraient de financer ce mur. Les quatre leaders du Congrès républicain et démocrate de la Chambre des représentants et du Sénat se sont rencontrés hier au Capitole avec deux émissaires de la Maison-Blanche pour tenter de sortir de l'impasse. Les démocrates peuvent tout bloquer au Sénat, car les républicains n'ont pas une majorité qualifiée des 3/5.
Le président Donald Trump a dissous hier une commission qu'il avait lui-même réclamée pour enquêter sur des fraudes électorales présumées lors de la dernière présidentielle américaine. De nombreux États avaient refusé de fournir les informations à cette commission.
En Iran, le général Mohammad al-Jafari, chef de l'armée d'élite du pouvoir, a proclamé la fin du mouvement de contestation qui a fait 21 morts et entraîné des centaines d'arrestations. Aucune manifestation anti-régime n'a été rapportée durant la journée d'hier. Et dans la foulée, il y a eu de manifestations massives de soutien au régime.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de la réouverture d'un canal de communication entre la Corée du Nord et du Sud. Cette remise en service survient à la suite d'une offre de dialogue de Séoul, répondant à une main tendue du Nord-Coréen Kim Jong-un.
Arzuma Compaoré avec vous pour la Minute Éco. La fondation Mohamed Ibn Rachid Al Maktoum pour le savoir, du nom du Premier ministre des Émirats Arabes Unis, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale, l'UNESCO et d'autres organisations, a attribué une note de 43 sur 100 au Maroc. L'objectif de cette édition du Global Knowledge Index est de déterminer quels sont les pays qui réunissent les conditions d'un accès optimal aux études et à la recherche scientifique. Une ligne ferroviaire électrifiée à écartement standard de 756 km, construite par la Chine pour relier Djibouti à l'Éthiopie, a été officiellement mise en service en début de semaine. La ligne est composée de deux tronçons. Le premier tronçon, long de 320 km, est réalisé par China Rail Engineering Corporation et relie deux villes du centre de l'Éthiopie. Le second tronçon est construit par la China Civil Engineering Construction Corporation et relie le centre de l'Éthiopie au port de Djibouti, qui représente 95% des échanges commerciaux éthiopiens avec le reste du monde. Le Big Data, ou la nouvelle ressource naturelle du 21e siècle, les masses d'informations très volumineuses collectées aujourd'hui par les smartphones, ordinateurs, tablettes et autres interfaces en tout genre nous font entrer dans le domaine du Big Data. Aujourd'hui, ces données massives représentent une activité en pleine croissance. Elles ont généré un chiffre d'affaires de 150,8 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2017.
Et c'est le moment de votre page sportive. Aujourd'hui, c'est Nicolas Filon. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec la remise du ballon d'or africain. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour J, Nicolas.
Ah oui, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, fait figure de grand favori devant le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le trophée du Ballon d'Or africain 2017 sera décerné ce soir à Accra, au Ghana. L'attaquant égyptien de 25 ans a surtout grandement contribué à la qualification de son pays pour le Mondial 2018. L'Égypte n'avait plus été en Coupe du Monde depuis 1990. Et puis Mohamed Salah qui impressionne également avec son club Liverpool. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue avec 17 buts. D'autres trophées seront remis tout à l'heure lors de cette cérémonie à Accra, notamment celui du meilleur entraîneur. Les trois finalistes, Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria, l'Argentin Hector Cooper, sélectionneur de l'Égypte, et le Marocain Houssine Amouta, entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le WAC, vainqueur de la Ligue des Champions, briguera également le titre de club de l'année face aux Égyptiens d'Al Ahly et aux Congolais du tout-puissant Mazembe.
Cédric Bakambu pourrait aller en Chine, s'engager avec un club chinois, n'est-ce pas?
Oui, le joueur congolais, homme en forme de Villarreal cette saison, est sur le point de quitter le club espagnol pour un transfert imminent vers le Beijing Guoan. C'est un club chinois. Si ce transfert se concrétise, Bakambu deviendrait la vente la plus élevée de l'histoire de Villarreal, devant le défenseur ivoirien Eric Bailly, qui avait été vendu 38 millions d'euros à Manchester United en 2016.
Et en athlétisme, Van Niekerk ne reviendra pas avant 2019.
Disputer le Mondial 2019 au Qatar serait un super nouveau départ, a déclaré hier le champion olympique en titre du 400 mètres, Wade Van Niekerk, alors que le Sud-Africain, blessé en octobre à un genou, vient d'en finir avec sa rééducation. Van Niekerk, souvent présenté comme le successeur d'Usain Bolt, est le premier homme à courir conjointement le 100 mètres en moins de 10 secondes, le 200 mètres en moins de 20 secondes et le 400 mètres en moins de 44 secondes. Allez Eric, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Une soirée bien animée, Nicolas. 12 rencontres à l'affiche. D'abord dans la conférence Ouest, Oklahoma City 133 contre 96 de Los Angeles Lakers. La Nouvelle-Orléans 108 contre 98 de Utah Jazz. Denver Nuggets 134 contre 111 de Phoenix. Golden State 125 contre Dallas Mavericks 122. Milwaukee Bucks 122 contre 101 de Indiana Pacers. Toronto Raptors 124 contre 115 de Chicago Bulls. Et dans la conférence Est, Washington Wizards 121 contre 103 de New York Knicks. Boston Celtics a battu Cleveland Cavaliers 102 à 98. Philadelphia 112 contre 106 de San Antonio Spurs. Miami Heat 111 contre 104 de Detroit Pistons. Brooklyn Nets 98 contre 97 de Minnesota Timberwolves. Enfin, Houston Rockets 116 contre 98 de Orlando Magic. Et c'est tout pour les résultats de la NBA, Nicolas. Et c'est la fin de votre page sportive de ce matin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Au Burkina, le colonel Auguste Denis Barry, placé sous mandat de dépôt hier à la maison d'arrêt et de correction des armées à Ouagadougou, interpellé vendredi. Le colonel Barry est visé par une enquête pour tentative de déstabilisation du régime du président Kaboré. Réputé proche de l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, Auguste Barry, Denis Barry, dirigeait jusqu'ici le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Pour commentaire, Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou le directeur des rédactions de la radio Omega, Hyacinthe Sanou.
C'est pas assez pour l'heure qu'il est visé par une enquête pour tentative de déstabilisation du régime Kaboré. Il est soupçonné donc d'avoir fomenté l'opération. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il est la seule personne interpellée et déférée dans ce dossier.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été interpellées?
L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie, Sergio Ouédraogo, a été lui aussi entendu, mais il a été par la suite libéré. Et selon les informations, il a été entendu comme témoin dans ce dossier donc de tentative de déstabilisation du régime
Comment réagissent les populations suite à ces deux interpellations-là? Je parle de celle du colonel Auguste Denis Barry et du colonel Alain Serge Ouédraogo.
Pour le colonel Serge Alain Ouédraogo, comme il a été libéré, la population ne réagit plus dessus. Mais pour le colonel Barry, il faut dire que pour l'instant, c'est l'expectative. Il y a bien sûr ceux-là qui crient au complot contre la personne du colonel Auguste Denis Barry, que l'on sait qui a été ministre de la Sécurité sous la Transition et qui présidait jusque-là au destiné donc, du Centre d'études stratégiques en défense. Mais il y a aussi ceux-là qui se disent donc qu'il y a forcément anguille sous roche. Si jusqu'à présent donc il est maintenu dans les locaux de la gendarmerie, il a même été déféré cet après-midi donc à la maison d'arrêt et de correction des armées. Donc pour l'instant, c'est vraiment le débat des pros et anti donc Denis Auguste Barry.
Sous la transition notamment, le colonel Auguste Denis Barry et bien sûr le premier ministre à son temps, Yacouba Isaac Zida, bénéficiaient d'un soutien de certaines organisations de la société civile. Est-ce qu'on sent ces organisations-là se mobiliser autour de cette interpellation de colonel Auguste Denis Barry?
Non, c'est la chose curieuse. Il faut justement le souligner. Les organisations de la société civile qui, sous la transition, étaient assez pro Auguste Denis Barry sont assez silencieuses depuis donc le début, depuis l'interpellation d'Auguste Denis Barry. Aucune organisation de la société civile n'a fait une sortie officielle sur le sujet. C'est vraiment le silence total à ce niveau. Et pour l'instant, dans la connotation, je pense que c'est plutôt les citoyens qui réagissent un peu par leur propre chef et non dans le cadre des OSC parce que c'est vraiment le silence, comme je l'ai dit, au niveau de ces OSC-là.
Hyacinthe Sanou à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Dans la Corne de l'Afrique, le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn promet de libérer les prisonniers politiques, de fermer le centre d'interrogatoire de Maekelawi pour le transformer en musée. Il n'a pas préciser le nombre de personnes concernées. L'Éthiopie connaît une crise politique qui a vu certains hauts fonctionnaires démissionner du parti au pouvoir après la récente répression des manifestations et des conflits ethniques meurtriers sur fond de revendications sécessionnistes. Près de 700 personnes sont mortes lors des troubles en 2015 et 2016, d'après une enquête mandatée par le Parlement. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Paris l'expert en questions africaines, Roland Marchal.
C'est une décision d'ouverture qu'on attendait depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'elle suffira, mais enfin, c'est un premier geste. Elle traduit, je crois, l'intensité du débat au sein des couches dirigeantes éthiopiennes et le fait que le type de gestion qu'ils ont eu de la sphère politique depuis des années est aujourd'hui remis en cause de façon importante par les mouvements sociaux. Cette remise en cause est en fait autant basée sur l'existence de tensions sociales très forte qu'une véritable crise à l'intérieur de l'alliance qui a gouverné le pays depuis 1991.
Et comment explique-t-on finalement aussi cette annonce que le Premier ministre a fait concernant le centre d'interrogatoire de Maekelawi, disant qu'il le serait fermé et transformé en musée?
Je crois que le gouvernement essaye de donner des gages d'une ouverture. Bon, ils vont sans doute aller un peu plus loin. Le problème qui est posé, c'est comment est-ce qu'un régime peut continuer à gérer le pays d'une façon aussi verticaliste et aussi autoritaire, alors même que les principaux partis de la coalition sont extrêmement divisés sur leur importance respective, les uns par rapport aux autres, et également sur le modèle de développement qui doit être suivi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit poursuivre ce modèle, entre guillemets, à la chinoise, c'est-à-dire d'État développementaliste? Est-ce qu'au contraire, il faut redonner beaucoup plus de sens aux demandes sociales de la population, et c'est-à-dire répartir autrement les fruits de la croissance? Et derrière ça, vous avez des remises en causes qui sont plus radicales, qui sont proprement politiques. Est-ce que les Tigréens, en tous les cas ceux qui sont partie prenante du Front Populaire de Libération de Tigray, qui ont de fait géré l'essentiel de l'appareil sécuritaire et de l'appareil politique, est-ce que ce monopole doit être remis en cause et quels seront les nouveaux partages du pouvoir qui vont avoir lieu à l'intérieur de la coalition et qui permettront de redonner une certaine crédibilité à ces partis politiques et à partir de là, disons, de trouver des compromis.
Roland Marchal, chercheur auprès du CNRS sur les questions africaines.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi 4 janvier. George Weah, élu nouveau président du Liberia, une nouvelle ère en perspective pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. Dans son premier discours post-victoire, l'ancien footballeur dit vouloir améliorer la vie des Libériens et mettre fin à la corruption gouvernementale. Il a aussi appelé les investisseurs étrangers à venir bâtir le pays à ses côtés. L'ancien Ballon d'Or est-il à la hauteur des défis qui se présentent devant lui? Comment va-t-il pouvoir tenir ses promesses de campagne? Et fera-t-il mieux que la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h en temps universel.
L'interdiction du commerce de l'ivoire en Chine annoncée en 2016 est entrée en vigueur. Pour certains défenseurs africains de l'environnement, cette décision est une excellente nouvelle pour les éléphants, mais certains craignent que le marché ne se déplace vers les pays voisins. Un reportage de Gilles Craig que vous présente Anastasie Toudièche.
La vente légale d'ivoire ne pourra plus avoir lieu sur le territoire chinois, une mesure saluée par les écologistes qui estiment que le commerce légal a servi de couverture au marché noir, normalisant l'achat et la vente d'ivoire. Max Graham, directeur du groupe de protection d'éléphants Space for Giants, de la place pour les géants, accueille avec joie la nouvelle.
Voir la Chine prendre une telle position montre qu'il y a une nouvelle superpuissance de protection animalière dans le monde qui prend ses responsabilités au sérieux. Et nous sommes ravis, le commerce de l'ivoire est un défi immense, mais le commerce illégal de faune sauvage est un vrai défi en Asie, en Chine surtout, où certaines parties d'animaux sauvages rares sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc, le pas de la Chine est très encourageant, le plus beau cadeau de Noël que la communauté des défenseurs de la nature pouvait recevoir.
La Chine a annoncé l'interdiction fin 2016, mais l'a rendue effective fin 2017, à la surprise de ceux qui imaginaient qu'il faudrait compter 5 ans. Les écologistes sont optimistes, même s'ils disent qu'il est trop tôt pour prédire comment la loi sera appliquée. Pour Frank Pope de Save the Elephants, Sauvons les éléphants, l'interdiction pourrait avoir un impact sur le destin des éléphants, mais il avertit.
Presser le ballon du commerce chinois va faire naître des marchés secondaires aux environs de la frontière, va faire éclore des marchés secondaires aux frontières. Et c'est déjà le cas au Vietnam, au Laos, en Birmanie et même à Hong Kong qui fonctionnent en dehors de la Chine. Tous ces lieux ont des marchés qui ont prospéré avec les menaçantes restrictions chinoises.
Comme ses collègues écologistes, Philippe Mourouti, vice-président de la protection des espèces à la Fondation pour la vie sauvage africaine, salue l'interdiction et note l'importance d'éviter un déplacement du marché. Et il ajoute que les éléphants ne seront pas les seuls bénéficiaires.
Vous savez, nous perdons environ 35 000 éléphants par an. Il y a environ 415 éléphants sur ces continents. Ce qui veut dire que dans 20 ans, à ces rythmes-là, nous n'aurons plus d'éléphants et que tous les espoirs que les Africains ont d'utiliser la vie sauvage et l'habitat naturel pour le développement, pour le tourisme dans des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, tous les espoirs seront dessus. C'est tellement énorme. femmes. Ce n'est pas une question d'éléphants, il s'agit aussi d'économie, du bien-être des Africains, de notre héritage. C'est donc un pas important que la Chine a fait.
Pour les écologistes, même si la lutte contre le braconnage est essentielle, à long terme, c'est l'aménagement de l'habitat qui constitue l'une des plus grandes menaces contre les éléphants. Ils recommandent aux gouvernements africains et à la Chine d'aider à amoindrir cette menace.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, un rappeur français se fraye une place dans le paysage musical du pays. Alex Ducamer chante dans un argot camerounais, forçant ainsi l'admiration du public. Alex Ducamer a imposé son style musical et même son accoutrement depuis 2014, année de son premier titre. À Yaoundé, Emmanuel Juntap vous livre son portrait.
Nyangalement, c'est l'un des titres à succès du jeune rappeur français Alex Ducamer, le cinquième des six titres de sa carrière musicale. Nyangalement fait référence au Camerounais inconditionnel de l'amour. Le phénomène est décrit dans l'argot camerounais baptisé francam anglais. Un mélange du français et d'anglais non conventionnel, usuel en milieu jeune. Une source d'inspiration pour Alex Ducamer.
Wanda, je go, voilà, on mélange, je waka, pour dire je marche, comme Johnny Walker qui marche sur la bouteille de whisky. Donc moi j'ai eu un coup de foudre en fait pour cette langue, très imagée, très inventive, le cam franglais. Donc je chante depuis mes débuts en cam franglais.
Le titre sorti en 2016 se danse toujours. Alex Ducamer n'en fait pas moins bien. Comme ce jour, sur le stade d'un quartier populaire de Yaoundé, il est l'invité spécial d'une structure spécialisée dans la mode, la communication et le tourisme.
Le volet tourisme, en fait, c'est ça qui a motivé notre choix d'Alex Ducamer. Parce que le fait qu'il soit blanc et qu'il chante des rimes camerounais et avec des rimes qu'on retrouve localement, surtout dans l'environnement des jeunes.
C'est en 2007 qu'Alex, un Lyonnais, a découvert le Cameroun lors d'une visite familiale. C'était le point de départ du coup de cœur pour le Cameroun.
Et moi, je suis un Camerounais d'origine française. Ouais, on voit beaucoup de Français d'origine camerounaise. Moi, je fais dans l'autre sens et je me sens très bien ici.
Congo ça, le nouveau single d'Alex Ducamer ne déroge pas aux réalités du Cameroun. Congo ça, c'est le monde des ragots et colportage au Cameroun. Cette intrusion en chanson d'Alex Ducamer dans le vécu des Camerounais fascine ses jeunes admirateurs.
Pour quelqu'un qui n'est pas du pays, il est plutôt facilement attaché au langage africain, camerounais, particulièrement l'afro. Donc, je pense que c'est quand même assez bien.
Le rappeur blanc, comme l'appellent certains, est un artiste de contact et accepté déjà par ses pairs du Cameroun.
J'ai fait un featuring il y a quelques mois avec Sadrak, qui est une des grandes plumes du hip-hop au Cameroun. Je suis à Douala, je prends beaucoup la moto, je fais des rencontres, des super rencontres, quoi. J'étais il y a deux jours là sur la moto avec le Ben Sikiner, on s'est mis à chanter, je lui ai fait découvrir mes chansons.
Au Cameroun, Alex Ducamer n'a pas d'autres activités que travailler pour l'avancement de ses projets de musique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a décidé de briser la distance entre la France et le Cameroun en mai 2017.
Alex Ducamer a finalement pris la décision de résider au Cameroun après six titres. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il multiplie des spectacles en public au milieu des gens du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Patrick Dea. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manilakiza à Washington. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Chaque jour est une vie. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt.